Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que Dieu soit béni. Nous allons lire ce soir un passage dans les Écritures, dans Hébreux chapitre 3, verset 1, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui était fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse, dans toute sa maison. Amen. Mais, frères et sœurs, il faut que je vous dise, le mot professons, là, dans cette traduction, c'est pas terrible, terrible. Le mot qu'il faudrait mettre là, à la place, c'est le mot confession. Je vais vous expliquer. Le mot confession, c'est pas que. Dans l'idée des chrétiens, c'est toujours un peu négatif le mot confession, parce que quand on parle de confession, on pense tout de suite confession des péchés. C'est sûr que la confession négative de nos péchés ouvre. C'est nécessaire, mais ça ouvre la voie à la confession positive de la parole de Dieu. On dit nos péchés, et après on dit la parole de Dieu. Donc le mot confession n'est pas que négatif, il est aussi positif. Et là, on devrait lire ce texte comme cela. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons, Jésus, qui était fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Et frères et sœurs, dès l'instant où vous dites que vous ne pouvez pas, vous êtes déjà vaincus. Vous dites que vous avez pas de foi, et aussitôt le doute apparaît comme un géant et il vous lie. Peut-être que vous n'avez jamais réalisé que, dans une grande mesure, c'est vos paroles qui vous gouvernent. Vous parlez de défaite, et ben voilà, la défaite vous tient. Vous parlez de peur, et la peur augmente. Salomon, il dit, tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris, tu es lié par les paroles de ta bouche. Proverbe 6, 2. Peu de chrétiens se rendent compte de ça. Peu de chrétiens se rendent compte de l'importance de ce qu'ils disent, la confession et la place de leurs paroles, de ce qu'ils disent, quelle place ça occupe dans leur vie. Chaque fois que le mot confession est employé, ça évoque automatiquement l'idée, la confession des péchés, des faiblesses, de l'échec. Mais comme je vous l'ai dit, c'est juste le côté négatif du mot confession. En tout, il y a toujours le négatif et le positif. Maintenant, il faut confesser la parole de Dieu. Dans la marche du croyant, il n'y a rien de plus important que la confession. Pourtant, ce n'est pas enseigné en général. Ce n'est pas enseigné ces choses. Mais vous devez le savoir. Dans ma vie, c'est ce que je mets tout en haut. C'est la confession. Le christianisme est appelé la confession, selon l'épître aux Hébreux, chapitre 3, là, ce qu'on vient de lire. Le mot grec, en fait, a été traduit dans ce chapitre par profession, mais dans la version seconde. Mais c'est pas correct. C'est pas correct. D'autres versions disent que c'est confession ou attestation. Tu as fait une belle confession, tu as fait une belle attestation en présence d'un grand nombre de témoins. Ça, c'est Paul qui dit ça à Timothée. Hein? Timothée, je crois, c'est un Timothée 6-12, je crois. Confession. Les deux mots. C'est presque semblable, mais quand il y a une différence, elle est très importante. Le mot grec traduit par confession signifie déclarer la même chose. Ou en d'autres termes, dire ce que Dieu dit. Ou s'accorder avec Dieu dans ce qu'on dit, dans notre façon de parler, dans notre témoignage. C'est dire ce que Dieu dit dans sa parole. En ce qui concerne nos péchés, bien sûr, mais en ce qui concerne aussi nos maladies, notre défaite apparente, notre santé, notre salut, nos victoires ou quoi que ce soit d'autre dans notre vie, confesser, c'est attester, ça veut dire affirmer ce que Dieu dit. Par exemple, la maladie cherche à vous ébranler, cherche à ébranler votre santé, les symptômes de quelque mal infectieux commencent à se manifester. Satan désire détruire ainsi votre santé et par ce moyen rendre votre vie inutile pour le service chrétien que vous avez à donner. Mais Dieu a déjà pourvu à votre santé à la croix il y a 2000 ans. Il a porté, il a pris sur lui toutes vos maladies. Voilà ce qui est écrit, n'est-ce pas? Dieu a fait un pacte de guérison avec vous. Il a promis, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il éloignera la maladie du milieu de toi. Exode 23-25. Parce qu'il l'a promis. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15-26. Et la parole de Dieu dit, c'est l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103-3. Jésus-Christ vous a racheté de toutes les conséquences de la chute d'Adam. Il vous a délivré de tous vos maux parce que lui-même a pris nos infirmités et il porta nos maladies. Matthieu 8-17. C'était un supplice cruel. Marc 15-16-20, Matthieu 27-26, Jean 19-1. Il est dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. 1 Pierre 2-24. Vous voyez, je vous donne des textes pour vous dire, voilà ce que dit la parole. Maintenant, qu'est-ce que vous vous dites? Dites comme la parole dit. Dites comme Dieu dit. Dites comme Dieu dit. Nous sommes ses enfants, nous devons parler comme Dieu, comme notre Père. Tout ça, tous ces textes que je vous donne, ça procure une base à votre foi. Vous savez que Satan ne peut pas imposer une maladie à votre corps puisque Christ l'a déjà portée. Quand vous lisez ça. Alors dès lors, vous lui résistez, vous résistez à Satan, vous résistez à ses symptômes trompeurs, il est le trompeur. Vous ne le craignez pas. Vous savez que votre délivrance, c'est un fait. Vous savez que votre maladie a été déposée sur le corps de Jésus-Christ et qu'il les a portées pour vous. Vous n'avez plus peur, vous n'avez plus de crainte. Vous repoussez hardiment, fermement, Satan, votre adversaire, au moyen de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ qui mourut pour vous libérer. Alors, vous tenez ferme là-dessus. Vous faites exactement comme Christ, qui est votre exemple, comme Christ l'a fait lorsqu'il a été tenté par le diable au désert. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, « Satan, il est écrit. » Alors, lui citez la parole de Dieu. Il dit, « Il est écrit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Il guérit toutes mes maladies. Christ lui-même a pris mes infirmités et il porta mes maladies. C'est ma confession. » Confesser, c'est dire ce que Dieu dit. C'est le témoignage de la foi. C'est parler en tout temps le langage de la Bible. C'est résister à Satan avec cette parole. Ainsi dit le Seigneur. C'est réclamer vos droits au trône de la grâce. C'est confesser la parole de Dieu, les promesses de Dieu. J'aime ça. Alors, on le répète. Le mot grec traduit par confession signifie dire la même chose, c'est-à-dire dire ce que Dieu dit, ou encore être d'accord avec Dieu dans notre conversation, admettre ce que Dieu dit, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Un ami vient vous voir au cours d'une épreuve que vous avez et vous dit oh, fais bien attention, je connais une personne qui est morte de cette maladie. Il faut vite que tu ailles au lit et il faut que tu demandes de l'aide. Au lieu de l'écouter, vous parlez le langage de Dieu parce que vous croyez ce que Dieu dit. Vous employez ses paroles dans votre conversation. Vous voyez ? Vous confessez fermement, le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Christ a porté mes maux et par ses meurtrissures, je suis guéri. Et en toutes circonstances, en tout temps, employez le langage de Dieu. Vous vous exercez à vivre et à parler comme Dieu. Est-ce que ce n'est pas le rôle du chrétien de s'exercer à vivre comme Dieu? Alors, si vous vous exercez à vivre comme Dieu, vous devez passer aussi par le langage. Vous exercez à parler comme Dieu. Ces déclarations révélées dans la Bible deviennent votre vie jusqu'à ce que Satan ne puisse plus prévaloir sur vous. Parce que la parole de Dieu, elle est devenue partie intégrante de votre vie et de votre nature. Vous voyez, vous devenez autant irrésistible que Dieu quand vous faites ça. Parce que sa parole, elle contrôle vos prières. Parce que sa parole, elle contrôle vos paroles. Parce que sa parole, elle contrôle vos pensées. Parce que sa parole, elle contrôle vos actions. Quand vous voulez ça, confessez. C'est affirmer ce que nous croyons. C'est confirmer quelque chose que vous croyez. C'est attester quelque chose que vous savez. C'est témoigner d'une vérité que vous avez acceptée. La parole de Dieu est le sujet exact de notre confession. C'est ça notre témoignage. Le plan de Jésus est que le grand message du christianisme soit apporté au monde par le témoignage, c'est-à-dire par le moyen de notre confession. Vous voyez ? Témoins, confesseurs ont été les principaux propagateurs de la nouvelle et de la vie révolutionnaire de Jésus-Christ dans le monde, du véritable christianisme. Principal problème devant lequel on est placé, c'est de savoir ce qu'il nous faut dire, de ce qu'il faut confesser. Eh bien, la parole de Dieu, simplement, en tout temps, en face des adversités, dans toutes les circonstances, confesser, c'est affirmer toutes les vérités bibliques. Confesser, c'est répéter de nos lèvres et avec une profonde conviction du cœur les choses que Dieu a dites par sa parole. C'est pas, par exemple, c'est pas dire « Ouais, bon, je suis guéri. Ouais, ça va, alléluia, amen. » Non, avec conviction. Vous ne pouvez pas confesser ou témoigner quelque chose que vous ne savez pas. Vous devez confesser ce que vous connaissez personnellement de Jésus-Christ, ces choses qui vous ont convaincu dans la parole de Dieu. Vous êtes certain que la parole de Dieu, la Bible, dit la vérité. Vous le savez. Alors, vous confessez ce que vous connaissez personnellement de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en lui? Le secret de la confession et de la foi qui prend la victoire se trouve dans la vraie compréhension de ce que Jésus-Christ a fait réellement pour nous et de ce que nous sommes en lui à cause de ce qu'il a fait. Ce secret, c'est aussi, il est aussi dans la connaissance des promesses de la parole écrite de Dieu concernant ce que nous pouvons faire à cause de son œuvre accomplie en nous. Cette connaissance des faits et actions correspondant à une ferme confession produit la foi la plus grande. Cette connaissance provient de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit. Pas de ce que monsieur le curé a dit, pas de ce que Michel Jonton a dit, pas de ce que ce frère Pratchoupoussra machin a dit ou la sœur truc a dit. Ce que Dieu a dit. Admirer simplement ces faits dans la Bible. Dire que vous les croyez. Mais si vous admirez seulement ça dans la Bible et que vous dites seulement que vous les croyez, mais que vous refusez ou que vous négligez de les confesser hardiment en agissant d'après ça, eh bien ça vous privera de la foi au moment où vous en aurez besoin. Admirer les choses de la Bible, c'est bien. Dire que vous les croyez, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Oh, mais pourtant j'ai cru. Il ne vous faut pas négliger de les confesser hardiment et d'agir d'après cela, d'après ces paroles de la Bible. Lorsque je connais qui est Jésus, ce qu'il a fait pour moi, ce qui m'appartient maintenant, pour que je puisse en jouir dans ma vie, au quotidien, alors je deviens un vainqueur. La rédemption, c'est-à-dire le rachat, devient pour nous une bienfaisante réalité lorsque nous savons que Satan a été vaincu par notre substitut Jésus-Christ et que sa défaite à Satan elle est éternelle. Cette défaite, elle lui a été infligée par notre substitut. Jésus est mort à notre place pour porter nos péchés et nos maladies. Il les a pris sur lui en tant que notre substitut. C'est la défaite totale de Satan. Et cette défaite, elle lui a été infligée et elle a été créditée à notre profit. Ainsi, d'après les registres de la Cour suprême de l'univers, nous sommes maintenant les maîtres de Satan et il doit reconnaître que nous dominons sur lui au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ça veut dire de la part de Jésus-Christ. Nous sommes là en son nom pour lui résister et pour dominer sur lui. Lorsqu'on sait ça, quand on sait ça aussi bien que 2 et 2, ça fait 4, la foi, elle est triomphante. Elle est assistée d'une confession d'autorité qui nous devient absolument naturelle. Automatiquement, on va se mettre à parler comme Jésus parlait. On comprend les faits concernant notre rédemption. La foi nous devient aussi naturelle que l'était la peur avant qu'on soit éclairé. Mais c'est tellement logique. Il faut dire ces choses. Il faut que vous sachiez ces choses afin que vous viviez une vie abondante telle qu'il a dit. Nous savons que Dieu lui-même a mis Satan et tout son royaume sous nos pieds et que nous sommes considérés comme des vainqueurs par le Père et par Satan. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Nous avons été libérés. Nous parlons comme des surhommes, comme des gens qui appartiennent à une autre race, à un autre royaume. Nous sommes un peuple élu, une sacrificature royale. Nous avons autorité. Dieu est notre garant. Nous sommes hardis. Nous parlons le langage de Dieu aussi facilement que les incroyants parlent de leurs craintes. Oh, mes frères et sœurs, quel merveilleux changement se produirait aujourd'hui dans les églises si les membres voulaient accéder à la place que Dieu leur a donnée et s'ils voulaient commencer à s'exprimer comme Dieu veut que ses élus le fassent. Il n'y a pas si longtemps, un chrétien déclarait être sauvé et n'était pas... Comment dire ça? Ça fait pas tellement longtemps, ce que je veux dire, c'est que ça fait pas tellement longtemps qu'on ose dire qu'on est sauvé. Si il y a encore... Allez, moi je me rappelle quand je me suis converti, c'était en 68, et que je disais que j'avais l'assurance de mon salut, le village dans lequel j'étais, un village protestant réformé de l'Église nationale suisse, il disait que j'étais orgueilleux. Ils n'arrivaient pas à écouter de telles paroles. Je suis sauvé. C'était absurde à leurs yeux de croire fermement que le salut était une œuvre accomplie et que c'était un fait achevé. Pour eux, c'était presque blasphémé que d'oser dire, je ne sais pas si je me fais bien comprendre là, que d'oser dire que j'étais sauvé. Mais vous voyez, progressivement, la lumière elle s'est levée et maintenant nous avons définitivement réalisé la connaissance bénie d'une conversion totale. On sait maintenant dans le monde, tout le monde le sait, que Jésus est le sauveur, que si Jésus est le sauveur du monde, ceux qui sont dans ce monde ont un sauveur, et que quand on a un sauveur, on est sauvé. Si seulement on croit dans ce sauveur, si on se met au bénéfice de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, et si nous nous mettons à le suivre, alors nous pouvons avoir cette assurance, parce que nous croyons de tout notre cœur qu'il nous relève, même si nous tombons, il est notre sauveur, je suis sauvé, gloire à Dieu. Mais combien peu d'entre nous osent confesser hardiment de la même manière face au monde ce que Christ a dit que nous sommes en lui. Donc juste un verset. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça ne signifie pas que nous sommes seulement des pécheurs pardonnés et des pauvres membres d'église faibles et chancelants et pécheurs et branlants. Non, ça signifie ce que les mots veulent dire. Nous sommes devenus de nouvelles créatures maintenant. Nous avons été créés en Jésus-Christ avec la nature de Dieu et la capacité de Dieu habitant en nous. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que la Bible dit. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dites-le. Confessez-le. Croyez-le. Parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Nous sommes nouveaux. Toutes choses sont nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Ces anciennes traces du péché, la maladie, l'échec, la faiblesse, la crainte, tout ça, ça a disparu. Maintenant, nous avons la nature de Dieu, sa vie, sa force, sa santé, sa gloire, sa puissance. Et nous l'avons maintenant. Amen. Quelle révolution ça amènerait dans l'Église d'aujourd'hui si ses membres croyaient cela et commençaient à parler ainsi, à vivre de cette manière, à agir en conséquence. C'est exactement ce que notre Dieu, notre Père, désire ardemment, mes frères et sœurs. Remarquez cette personne dans cette chambre où la maladie a pris possession d'un être bien-aimé. Elle est hardie, elle domine, elle le sait. Alors hardiment, elle confesse « Celui qui est en moi est plus grand que le mal qui me vole cet être cher. » Elle commande à la maladie de s'en aller. Elle parle au nom de Jésus et ordonne à Satan de lâcher sa proie. Voilà ce qu'un chrétien fait. Il m'en dit pas. Il est pas « Seigneur, si c'est ta volonté. » Mais bien sûr que c'est la volonté de Dieu. Il est mort pour ça, pour vous donner ça. Un autre exemple. Prenez Colossiens 1, 13, 14. Après j'arrête. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Ça signifie que la domination de Satan est finie et que celle de Jésus-Christ a commencé. Voilà ce que ça signifie. Au moment où vous êtes né de nouveau, cette domination de Satan sur votre vie, elle a été brisée. C'est un nouveau Seigneur qui vient régner sur votre nouvelle vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Les maux, les maladies, les faiblesses, les manquements ne peuvent pas continuer à régner sur vous. Vous devez le savoir et vous devez le confesser. Si vous le savez seulement et que vous ne le confessez pas, votre foi, elle prend un coup terrible derrière les oreilles. Les habitudes anciennes ne peuvent plus dominer sur votre vie. Vous avez été rachetés, vous êtes sauvés. Mes frères et sœurs, quel bouleversement il y aurait si cette parole devenait une réalité. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41:10. Oh, c'est un beau verset. Ça fait du bien de lire ces choses, c'est joli. Non, c'est pas joli, c'est vrai. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8:31. C'est la chose la plus révolutionnaire qui puisse être enseignée, mes frères et sœurs. Ce sont de telles choses que la Bible nous dit de confesser à la face du monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:4. Alors sans crainte, dites, Dieu est en moi maintenant. Le maître de la création est avec moi. C'est ma confession. Seigneur Jésus, j'ai fait de mon mieux pour faire comprendre ces choses à mes frères et sœurs qui sont venus écouter ce message sur révélationbible.com. Je te demande d'appuyer cela par ton Saint-Esprit dans le cœur, dans l'intelligence de mes frères et sœurs, afin que plus jamais ils ne soient les mêmes personnes et qu'ils ne se laissent plus avoir par tout ce qui vient de l'ennemi, mais qu'ils se montrent comme des vainqueurs et qu'ils puissent agir, parler comme toi tu agis et comme toi tu parles. Merci Seigneur de nous aider. Seigneur, tu connais, tu sais qui nous sommes. Eh bien, cette parole-là, c'est une parole magnifique qui va nous faire grandir tous les uns et les autres. Là où nous en sommes, nous allons aller plus haut. Si seulement vous croyez, si seulement vous parlez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au revoir, écrivez-moi, dites-moi ce que le Seigneur a fait au travers de cette prédication pour vous. Que Dieu vous garde. À bientôt.